Le numéro 14 nous dit: le jour du Seigneur, rassemblez-vous pour rompre le pain et rendre grâce, après avoir en outre confessé vos écarts de conduite pour que votre sacrifice soit pur. Autrement dit, alors il ne faut peut-être pas y voir déjà le sacrement de la pénitence, puisqu'il existe, enfin, sous la forme de confession, il n'existe pas encore. Ce sont les moines celtes qui vont l'importer sur le continent, et la forme précédente, c'était la pénitence publique qui était réservée aux péchés gravissimes, mais qui durait aussi des mois avec une intensification dans les 40 jours du carême, avec réconciliation publique par l'évêque. Donc péché public grave et réconciliation publique par l'évêque. Donc il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit de ce qui va être l'origine de ça. Par exemple, c'est seulement au IIe siècle qu'on commencera... Vous avez vu le pasteur d'Hermas, là, quand on parle du pasteur, qui se fait l'avocat, justement, de la deuxième pénitence, en fait, de la deuxième rémission des fautes, en disant... parce que normalement, l'unique rémission des fautes, c'était le baptême. Hein, il y a une lettre de saint Jean qui dit, qui s'étonne qu'on puisse encore pécher après avoir été baptisé. Ben voilà, oui. Et donc le pasteur d'Hermas dit, ben, il y a une deuxième, il y a une, voilà, comme dira Tertullien aussi, il y a une planche de salut après le naufrage. Mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, alors en revanche, il y a des pénitences spontanées. Qui ne sont pas sacramentelles, et c'est justement ce que vise l'auteur, là, rassemblez-vous pour rompre le pain et rendre grâce après avoir en outre confessé vos écarts de conduite pour que votre sacrifice soit pur. Vous voyez que cette pratique va être la base de la confession sacramentelle avant la messe.
Et elle date de quand, la confession sacramentelle?
Alors, elle existe sous la forme de la pénitence publique et dès le deuxième siècle, deuxième siècle, et puis elle va se répandre sur le continent sous la forme de tarifé là des moines irlandais à l'époque mérovingienne, en fait, et c'est à partir de là. Après il y aura toutes des histoires de rédaction des pénitentiels. Et globalement, ça va être à l'époque de Charlemagne, donc l'époque carolingienne, qu'on va tout, disons, homogénéiser.
Quel sacrement dans sa forme actuelle?
Il date de cette période, mérovingienne, mérovingienne, carolingienne.
Ça n'a pas changé
Non, pas trop. Non. Alors, après, mais quiconque a un différent...
Je crois que tu as une question.
Vous parliez de ceux qui travaillaient dimanche, finalement, c'était encore le repos dominical, le repos hebdomadaire, c'était encore le sabbat, donc c'est ça.
Alors pour les juifs, oui, mais pour les autres, il n'y avait pas vraiment de repos. On travaillait tous les jours, en fait, et, sauf les jours de fête, où il y avait des fêtes de telle divinité, de tel truc. Mais il n'y avait pas de repos hebdomadaire, je n'ai pas l'impression, dans l'Empire.
C'est le troisième commandement qui impose de...
Dimanche.
Oui, oui, mais ça c'est chez les juifs.
Oui,
c'est universel, le décalogue.
Ah oui, le décalogue, oui, mais les civilisations païennes ne le respectaient pas nécessairement. Hein.
Oui.
D'abord, elles ne le connaissaient pas.
Mais la semaine, ce n'était pas 7 jours.
Mais non. Non, le système qui nous est familier, c'est le système juif. Que les chrétiens ont imposé finalement à toutes les autres cultures. Hein. Notre système hebdomadaire avec un jour... La preuve, c'est que quand on a voulu se débarrasser du christianisme, on s'est empressé de détruire la semaine. Le décadi. Alors on a quand même gardé un jour chômé, mais le dixième jour. Mais vous voyez... Donc en fait, c'est Constantin qui va... Théodose, je crois que c'est Constantin qui va déclarer un jour chômé dans la semaine, dans ce qui est la semaine chrétienne, c'est-à-dire qui commence le premier jour qui est en fait le lendemain du sabbat, donc qui est le troisième jour, celui de la résurrection, à 3 égale 1, Et puis, c'est pour ça d'ailleurs qu'en latin, le lundi, c'est feria secunda. La feria prima, c'est le dimanche.
Quel degré, quelles sont les conséquences de la découverte de la Didaké et peut-être corollairement, quel est son degré de fiabilité? Que ça donne quand même des indices très précieux.
Oui, tout à fait. C'est un. Je pense que je dois avoir l'introduction. C'est un document alors, qui a été découvert dans une bibliothèque à Constantinople par des érudits. Je pense allemand à l'époque de ou anglais, je ne sais plus, à l'époque des alliances avec les pays ottomans. Et puis qui ont fouillé les bibliothèques et qui ont trouvé ce document et dont l'antiquité leur a sauté aux yeux en fait.
L'authenticité, vous voulez dire ?
L'antiquité du document.
Ah, l'antiquité du document. Oui.
Il y a alors, pas référence à ce document.
Non, aucune référence. Alors que, par exemple, vous avez vu, certains autres documents repérés, recités chez les uns ou chez les autres. Je peux chercher ce que dit l'auteur ici. Je vous lis l'introduction de la Pléiade. La doctrine du Seigneur transmise par les 12 apôtres, appelée communément Didaké, est le plus ancien document qui nous soit parvenu contenant les règles de vie qui régissaient les premières communautés chrétiennes. Le titre place d'emblée ce texte resté anonyme sous l'autorité des disciples du Christ et le rattache aux Écritures sur lesquelles ces premiers législateurs ecclésiastiques s'appuyaient pour fonder leurs recommandations. La proximité revendiquée avec le Christ a fait de cet opuscule un écrit tenu en haute estime par l'Église primitive, qu'il a parfois considéré comme un ouvrage inspiré. De fait, vous vous souvenez dans le fragment de Muratori, il est cité. De fait, l'ancienneté. Mais le fragment de Muratori, même chose, il a été redécouvert qu'au XVIIIe siècle. De fait, l'ancienneté de la Didaké dans la littérature chrétienne est indéniable. L'œuvre serait contemporaine des évangélistes itinérants et daterait pour ses parties les plus récentes de la fin du 1er siècle, certaines autres remontant plus haut dans le siècle. Donc, vous voyez, c'est probablement l'écrit le plus ancien que nous ayons. Et puis après, il y a simplement une description époque et lieu.
C'est pas les quatre évangélistes.
Non, c'est justement ces ministères dont déjà parle saint Paul, dans Éphésiens par exemple, faites office d'évangélisateur, etc. Voilà ce que dit l'auteur sur la composition. Il dit l'absence d'unité de la Didaké. Vous avez vu, il y a d'abord la morale puis les sacrements, là ça fait quand même une certaine unité, puis après plein de petites prescriptions variées. L'absence d'unité de la Didaké accrédite l'hypothèse d'une composition en plusieurs étapes successives. Mais également dans les prières eucharistiques des chapitres 9 et 10, celles qu'on a vues tout à l'heure, où se révèle une pratique juive dans l'ordre même des bénédictions précédant et suivant le repas, qui contiennent par ailleurs des prescriptions et des formules d'inspiration juive probablement préexistantes, mais qui ont été modifiées de toute évidence par un rédacteur chrétien. Ou encore, donc le chapitre 16, c'est sur l'eschatologie. Donc vous voyez un petit peu l'idée, pourquoi c'est tellement ancien, parce que en fait c'est très très proche encore de l'origine juive, et puis aussi, on va voir avec le chapitre final, 16, qui est l'attente eschatologique. Souvenez-vous de ce qu'écrit Paul aux Thessaloniciens, tenté de ne plus rien faire en attendant que la fin du monde arrive. Et alors, il les met en garde en disant, oui, mais enfin, c'est peut-être pas pour demain. Et alors, là, donc, l'attente eschatologique, c'est véritablement un des signes du christianisme, du judéo-christianisme naissant. On est en pleine période, enfin, la littérature intertestamentaire est fondamentalement apocalyptique à cette époque. Donc, tout le monde attend la fin, en somme. Tout le monde attend, d'ailleurs, tout le monde attend le Messie, à vrai dire. Et donc, tout le monde s'attendait à la fin à cette époque. Et bien sûr, les chrétiens, ils se disent, ça y est, la fin, elle est arrivée. Mais maintenant, pour eux, le temps de l'Église, c'est un temps extrêmement court. Le Christ est reparti au ciel, mais il va vite revenir mettre fin à toute chose. Déjà, être millénariste, hein, c'est avoir une vision du temps long. Hein. Alors maintenant, nous, on est plurimillénariste, mais...
Vous n'avez pas la bombe atomique.
Alors, je continue mon chapitre 14, là, mais quiconque est indifférent avec son compagnon, qui ne se joigne pas à vous, tant qu'ils ne se sont pas réconciliés, de peur que votre sacrifice ne soit souillé. Souvenez-vous de la prescription dans l'Évangile. Voici en effet la parole prononcée par le Seigneur. Alors voilà le type de tradition orale, c'est-à-dire de paroles que peut-être Jésus a dites, on n'en est pas certain, mais après tout l'auteur lui le croit, et qu'il aurait très bien pu dire. Voyez. Alors il dit quoi ? « Quand tout lieu et tout temps m'offrent un sacrifice pur, parce que je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est admirable parmi les nations. » Donc ça, citation de Psaume. Alors après, ce qui est intéressant, c'est sur la hiérarchie encore. « Élisez-vous donc des évêques et des diacres dignes du Seigneur. » Là, c'est typique d'une église pagano-chrétienne, avec le fonctionnement évêque-diacre. Des hommes doux, désintéressés, véridiques et éprouvés, car ce sont eux aussi qui pour vous remplissent l'office des prophètes et des didascales, donc ceux qui enseignent. Ne les dédaignez donc pas, car ils sont parmi vous ceux qui sont honorés du même titre que les prophètes et les didascales. Reprenez-vous les uns les autres, non pas dans la colère, mais dans la paix, etc. Voilà, vos prières, vos aumônes et toutes vos œuvres, faites-les de la manière que vous le trouvez dans l'évangile de notre Seigneur. Vous voyez, c'est impressionnant ça. Hein. Donc, au moment même où certains sont en train de faire l'évangile de notre Seigneur, eh ben lui, il renvoie l'évangile de notre Seigneur. Alors, aucun des quatre évangiles n'est encore écrit. Ou alors, ils sont en cours de rédaction, mais il y a déjà des proto-évangiles, c'est-à-dire des listes de paroles du Seigneur, qui circulent dans les communautés, etc., etc. Et à partir de là, eh bien, lui, il renvoie à ces listes-là. Alors que, probablement, Matthieu, Marc et Luc sont en train de constituer ce qui va devenir les évangiles pour nous. Alors, après, voilà le dernier chapitre. Oh, je vous le lis, allez. « Soyez éveillés pour votre vie. » Que vos lanternes ne soient pas éteintes et que vos reins ne soient pas rompus, mais soyez prêts, car vous ne savez pas l'heure où notre Seigneur vient. Très évangile. Vous vous rassemblerez fréquemment pour chercher ce qui convient à vos âmes, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si au dernier moment vous n'êtes pas parvenu à la perfection. Car au dernier jour, les faux prophètes et les corrupteurs se multiplieront, les brebis se transformeront en loups et l'amour se transformera en haine. C'est que l'iniquité s'amplifiant, les hommes se haïront, se persécuteront, se trahiront les uns les autres, et alors le suborneur du monde apparaîtra comme le Fils de Dieu. Il accomplira des signes et des prodiges, la terre sera livrée entre ses mains, et il commettra des iniquités telles qu'il ne s'en est jamais produit depuis le commencement des siècles. Alors toute créature humaine viendra au feu de l'épreuve. Beaucoup seront scandalisés et périront. Mais ceux qui seront restés dans leur foi seront sauvés par la malédiction même. Et alors apparaîtront les signes de la vérité. En premier, le signe du déploiement dans le ciel, puis le signe du son de la trompette, et le troisième, la résurrection des morts. Non pas celle de tous, mais comme il a été dit, le Seigneur viendra et tous les saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venir sur les nuées du ciel. Et puis la fin manque, nous précisons. Donc, vous voyez, là, on n'a même pas une citation de l'Apocalypse de Saint Jean. On a le chapitre 15 de la première aux Corinthiens. qui est précisément la première. On sait que la première aux Corinthiens avec les Thessaloniciens, ce sont les premiers écrits du Nouveau Testament qui ont été écrits dans les années 50. Donc, quand on dit que certaines strates de ce texte remontent à la deuxième moitié du premier siècle, on peut dire qu'à la limite, le seul écrit canonique de l'époque sur lequel qu'on pouvait citer, c'est précisément la première aux Corinthiens ou les épîtres aux Thessaloniciens. Donc on est vraiment très très près de l'événement là. Et on a redécouvert ce texte mystérieusement, donc qui avait été perdu. Je crois que c'est dans le fragment Muratori, effectivement, où il est cité comme une des écritures qui était reçue. Ce texte-là, on l'a redécouvert qu'en 1873, par certainement un érudit curieux qui a trouvé ça dans une bibliothèque de Constantinople.
Mais en fait, si ce texte est antérieur à l'Apocalypse écrit par Saint Jean, à quel schéma, les trois schémas, les trompettes, etc., il puise donc dans l'Ancien Testament ?
Saint Paul, il puise dans l'Ancien Testament, certainement. Alors, dans la littérature intertestamentaire, parce que, par exemple, vous avez des parties apocalyptiques dans les prophètes, Malachie, Zacharie, et surtout là, le dernier mot qui nous reste dans ce texte, c'est « On verra venir le Fils de l'homme sur les nuées du ciel ». C'est une citation, alors ça sera repris dans nos évangiles canoniques, mais c'est une citation du livre de Daniel. Donc c'est véritablement... Donc on sent bien le matériau juif retravaillé par des chrétiens, sans l'inventivité justement des textes canoniques. Parce que les textes canoniques vont réinterpréter totalement le matériau juif, ils vont porter la parole même du Seigneur. Donc là, on voit qu'on cite un bout de Saint Paul, qui devait être connu par l'auteur, et on voit que c'est une sorte de commentaire chrétien, mais qui n'a pas encore d'autres éléments, vous voyez. C'est pour ça que probablement les évêques se diront, ça c'est plus un texte, c'est plus un commentaire, une instruction, mais ça n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, même si ça paraît très proche de l'événement. Il n'y a pas cette espèce d'autorité qu'on trouve dans les écrits apostoliques ou les écrits évangéliques. C'est une sorte de catéchisme, de résumé, certainement, comme il devait y en avoir beaucoup qui servaient de manuel d'instruction pour les communautés chrétiennes. Oui. Donc on va s'arrêter avec ça. Alors vous voyez, finalement, on n'avance pas très vite.